pour vous de retrouver. Antoine, merci pour son journal. Bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à tous. Apaisement entre Paris et Rome. Le président du Conseil italien maintient finalement demain sa rencontre avec le président français Emmanuel Macron. Estime qu'il n'a tenu aucun propos visant à offenser l'Italie et le peuple italien. Analyse de Marie-Pierre Véraud dans un instant. La guerre au Yémen avec le grand port d'Hodeïda sur la mer Rouge. Enjeu principal d'une offensive des forces pro-gouvernementales soutenues par l'Arabie Saoudite. Suivi des combats avec Louis Valentin Lopez. L'actualité en France, les retraités mobilisés à nouveau aujourd'hui pour défendre leur pouvoir d'achat. Hier, les dernières prévisions du Conseil d'orientation des retraites indiquaient que le système de retraite ne devrait revenir à l'équilibre qu'en 2036. Explications et détails avec Hugo Chessinski. L'Assemblée nationale vote définitivement la proposition de loi de La République en marche sur la protection du secret des affaires, considérée par ses détracteurs comme un outil de censure inédit. C'est ce que nous expliquera Catherine Pétillon tout à l'heure. Et puis Vladimir Poutine reçoit le prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman en marge du coup d'envoi du Mondial 2018. Correspondance à Moscou de Claude Bruyot, l'invité de la séquence interview. Notre confrère Régis Janté pour son livre « Football, le ballon rond de Staline à Poutine » publié chez Alary Éditions. Et dans la dernière partie de la grande table, Olivia Jesbert.
Notre premier invité, Guy Delisle, parlait la langue dessinée. Notre second invité parle, lui, un langage informatique. Andrew Finberg, pionnier des recherches online, philosophe américain, est notre invité. Il va nous aider à repenser la technique et voir comment elle peut prendre place aujourd'hui dans les démocraties actuelles. Il sera avec nous à partir de 12h55.
Finalement, le président du Conseil italien, Giuseppe Conte, viendra bien demain à l'Élysée pour déjeuner avec le président français. Lors d'un entretien téléphonique hier avec M. Conte, Emmanuel Macron a souligné qu'il n'avait tenu aucun propos qui visait à offenser l'Italie ou les Italiens. Lors de cette conversation, les deux responsables estiment donc être d'accord sur le fait que l'Italie et la France doivent approfondir leur coopération bilatérale et européenne pour mener une politique migratoire efficace avec les pays d'origine et de transit. Marie-Pierre Véraud, bonjour.
Bonjour Antoine.
Bon, même si les mots ne sont pas prononcés, les derniers propos du chef de l'État ressemblent quand même à ces excuses qui avaient été réclamées par l'Italie.
Oui, la raison a fini par prévaloir sur l'émotion. Les deux hommes se devaient, il faut le dire, d'être à la hauteur de l'enjeu. Les migrations sont sans doute le dossier, ou en tout cas l'un des dossiers les plus cruciaux pour l'Union européenne, celui sur lequel elle se renforcera ou se fracturera, celui aussi tant il repose sur des valeurs qui pourraient entraîner sa dissolution. Et donc, sans formuler d'excuses formelles, Emmanuel Macron a tout de même reconnu à demi-mot qu'il avait été trop loin. Pas question d'offenser l'Italie, vous le disiez. Rappel aussi dans le communiqué élyséen de la nécessité, toujours défendue par la France, nous dit-on, d'une solidarité accrue avec le peuple italien. Chacun peut donc garder la tête haute. Mais maintenant, le plus difficile reste à venir. Cette rencontre de vendredi, avec la volonté, dit-on, côté italien, de s'accorder sur de nouvelles initiatives. Et puis l'échéance, bien sûr, à 28 États à la fin du mois à Bruxelles.
Alors cette nouvelle opposition italienne va pour le moins entraîner une prise de conscience. En tout cas, place l'Union devant la nécessité de prendre maintenant plus clairement position, sans doute. Reste à savoir quelle va être cette décision européenne, s'il y en a une.
Prise de conscience, hein, mais effectivement, mais sur quoi va-t-elle déboucher? C'est en effet toute la question. Tout ce qu'on vient désormais que l'on ne peut laisser l'Italie seule. On pouvait donc espérer qu'enfin l'Arlésienne d'une refonte des accords de Dublin aboutisse. C'est le nœud ou l'un des nœuds, disons, de la question, puisqu'ils font porter la charge de l'accueil sur le premier pays d'Europe atteint par les migrants, donc en ce moment surtout sur l'Italie. Et c'est par exemple en vertu de ces accords que la France renvoie par milliers des demandeurs d'asile de l'autre côté des Alpes, ajoutant à la charge. Or, il semble que même ce dernier épisode de l'Aquarius qui a obligé à tomber les masques n'entraîne pas d'évolution sur le sujet. Les accords de Dublin, on ne le révérait finalement qu'en décembre, faute de consensus. Alors, sur quoi se mettra-t-on d'accord? Eh bien, si l'on en croit les priorités avancées en France, en Italie, à Berlin, toujours les mêmes priorités. Renforcer les frontières, une politique efficace avec les pays d'origine et de transit, donc en clair, empêcher les départs ou faciliter les renvois dans des pays tiers traversés par les migrants dans leur quête d'Europe. Paris et Berlin souhaitent également mettre en avant une réforme de l'asile pour rapprocher les critères entre les différents pays de l'Union européenne. Pour lutter contre les réseaux de passeurs, on souhaite certes accroître encore les moyens de Frontex, mais on ne parle pas non plus de ce qui les nourrit, ces réseaux, le rétrécissement extrême de toute voie légale d'immigration en Europe. Il y a encore la volonté d'accroître l'aide au développement pour tarir les départs. Il y aurait aussi beaucoup à dire sur le sujet. Et puis pour ajouter enfin à la cacophonie ou au brouillard, Parlons de cette initiative des ministres italiens de l'Intérieur, Salvini, donc le patron de la Ligue, autrichien et allemand, qui veulent constituer un axe des volontaires. Les mots ont un sens, un axe, pour s'attaquer à l'immigration clandestine et à la sécurité. On avait déjà un groupe de Visegrad en Europe orientale, plus que fermé. En voilà donc un autre. Et puis l'Autriche discute aussi avec les Pays-Bas et le Danemark pour la création de centres d'accueil de migrants hors Union européenne. On le voit, les lignes de fracture se déplacent en Europe, mais elles se multiplient aussi.
Merci beaucoup Marie-Pierre Vérot. Alors, faute d'accord pour l'instant au niveau européen, la position des responsables politiques est parfois ambiguë. Par exemple, malgré des discours d'ouverture, la France continue de tenter de décourager la venue des migrants. Dernier indice en date de cette intention, la tentative du gouvernement de passer sous silence un récent avis, qui était un avis critique du Conseil d'État sur le sujet. Christine Monclar.
Oui, un avis adopté le 16 mai dernier et qui invoque une fois de plus la Constitution française et la Convention internationale de Genève sur les réfugiés pour fustiger ce que l'on appelle le concept de pays tiers sûr, c'est-à-dire des pays extérieurs à l'Union européenne, considérés comme suffisamment protecteurs pour que l'on puisse y renvoyer des demandeurs d'asile sans même avoir à examiner leur dossier. C'est la Commission européenne qui défend avec insistance cette externalisation du droit d'asile et c'est pourquoi le Conseil d'État s'était prononcé. Alors c'est le journal Le Monde qui a eu copie de cet avis, resté confidentiel car le gouvernement n'a pas jugé utile de le publier. Il ne concernait pas un projet de loi précis, nous explique ce matin le ministère de l'Intérieur, ce qui est vrai, mais qui aurait pu être le cas, car Gérard Collomb a bien tenté, dans la première mouture de son projet de loi asile, d'inscrire dans le droit français cette notion de pays tiers sûr, avant de reculer face à la pression des ONG et la gêne d'une partie même de son camp politique. Il est d'ailleurs intéressant de noter que le conseiller d'État, auteur d'une note préalable à cet avis, est un certain Patrick Stefanini, qui fut directeur de la campagne de François Fillon en 2017, et avant cela, influent numéro 2 de Brice Hortefeux au ministère de l'Immigration et de l'Identité Nationale. C'est donc un ex-sarkozyste pur et dur qui double ici sur sa gauche un ministre venu du Parti Socialiste.
Merci Christine Monclar. François Hollande déplore, lui, que les pays européens dont la France ait fait preuve d'incohérence, c'est son expression, face à la situation de l'Aquarius, et affichent leur division, estimant que les migrations posent la question même de l'avenir de l'Europe. La guerre au Yémen, qui redouble d'intensité, second titre dans cette actualité, le grand port de Hodeïda sur la mer Rouge, c'est le point d'entrée d'une bonne partie des importations de l'aide humanitaire en territoire yéménite, et donc l'enjeu de cette bataille qui semble tout à fait décisive maintenant. Il y a des raids aériens saoudiens qui ont visé des positions des rebelles houthis ce matin. C'est le deuxième jour de cette offensive des forces gouvernementales pour reprendre la ville. Pour l'instant, le port reste ouvert donc en dépit de l'assaut. Et en parallèle, eh bien, le Royaume-Uni convoque une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies donc qui aura lieu ce soir pour tenter de trouver un accord ou de ramener une forme de paix, en tout cas de ramener, maintenir l'aide humanitaire sur place. Est-ce que la diplomatie peut encore quelque chose dans ce conflit, Louis-Valentin Lopez?
Eh bien, Antoine, jusqu'ici, les négociations menées par l'ONU se sont révélées infructueuses. Mardi déjà, leur émissaire n'a pas réussi à empêcher le début de l'assaut. Les rebelles houthis ont refusé de sortir du port. L'attaque a donc été lancée après la fin de l'ultimatum. Ultimatum que leur avait soumis la coalition. La diplomatie d'autant plus impuissante que le contexte a changé. C'est l'analyse de David Rigoulet-Rose. Il est enseignant-chercheur rattaché à l'Institut français d'analyse stratégique.
Depuis le retrait américain de l'accord sur le nucléaire, la coalition arabo-sunnite se sent, avec une marge de manœuvre, une amplitude beaucoup plus importante. La coalition arabo-sunnite se sent soutenue massivement par l'administration Trump, en l'occurrence, pour mener à bien les opérations militaires qu'elle a engagées. En ce qui concerne l'ONU, la marge de manœuvre est extrêmement restreinte. L'ONU est un spectateur, comme les autres, de la situation militaire sur le terrain.
Et quid du rôle de la Russie? Ce matin, le Kremlin a appelé à suspendre au plus vite les combats. Il s'inquiète des risques pour la population civile. Seulement voilà, le poids de Moscou n'est pas du tout comparable à celui qu'elle peut avoir sur la Syrie. Au Yémen, elle n'est pas maître d'œuvre du conflit. La coalition est donc décidée à aller jusqu'au bout. La position de l'Arabie Saoudite et des Émirats Arabes Unis n'a pas changé. Ils considèrent que le cours de la guerre pourrait basculer avec la reprise du port d'Hodeïda, port par lequel transitent selon eux des armes livrées par l'Iran, leur grand ennemi, aux rebelles. Problème, Hodeïda, vous le soulignez Antoine, est aussi le point d'entrée des aides humanitaires. Hier soir, la coalition a essayé de rassurer les ONG en affirmant avoir pris des dispositions pour assurer la continuité du flot de ces aides.
Louis-Valentin Lopez, merci. L'otage française Sophie Petronin, qui avait été enlevée au Mali en 2016, apparaît dans une vidéo hier soir diffusée par le groupe dit de soutien à l'islam et aux musulmans. Vidéo dans laquelle elle s'adresse à son fils et au gouvernement français, au président Macron, en indiquant que la date de l'enregistrement est date donc du 7 juin 2018 de cette année. Elle est à 75 ans. Elle était l'otage donc qui dirigeait au Mali une association d'aide aux orphelins. Elle avait été enlevée à Gao, dans le nord du pays, le 24 décembre 2016 par des hommes armés. 12h41, l'actualité en France avec les retraités qui sont une nouvelle fois mobilisés pour défendre leur pouvoir d'achat. Hier, les prévisions du Conseil d'orientation des retraites indiquaient que le système de retraite devrait revenir à l'équilibre financier en 2036 seulement, dans le meilleur des scénarios d'ailleurs envisagés. Avec 316 milliards d'euros versés en 2017, les dépenses du système de retraite s'élevaient à 13,8% du PIB. Rapporté à l'ensemble de la population, le niveau de vie des retraités devrait donc diminuer dans les années qui viennent, alors qu'il s'établissait à environ 105% de celui de l'ensemble des Français en 2015. Il devrait tomber à 89 et 95% en 2040, et puis encore plus bas en 2070, on dit entre 77 et 89% de ce revenu de l'ensemble des Français. C'est une baisse tendancielle qui est donc amorcée maintenant et qui semble être l'un des axes finalement aussi de la politique du gouvernement Hugo Chessinski.
Oui Antoine, l'écart entre les revenus des actifs et les pensions de retraite vont être amenés à se creuser. En France, le poids du vieillissement est très important. Il y a de plus en plus de personnes âgées et pas assez d'actifs pour financer les retraites. La baisse des cotisations sociale compensée par la hausse de la CSG pour les retraités a eu l'effet d'un choc psychologique et pour cause, ils sont impliqués dans le financement de leur propre retraite. En plus, les caisses des retraites sont dans le rouge. Avec une croissance constante à 1,8%, le déficit devrait atteindre 4,5 milliards d'euros en 2022. Et plus préoccupant encore, vous le disiez Antoine, c'est dans le meilleur des cas, hein, ce déficit s'installerait pour 18 ans, c'est-à-dire jusqu'en 2036. Si la croissance stagne autour de 1%, là, le régime restera en déficit jusqu'en 2060. La note du Conseil d'orientation des retraites montre que la pension moyenne va continuer à augmenter car les gens qui arrivent à la retraite ont eu de meilleures carrières et étaient mieux payés. Mais pour autant, ça ne va pas freiner la croissance de l'écart entre les salaires et les pensions de retraite car selon les prévisions, la pension moyenne des retraités augmentera moins vite que le revenu d'activité moyen. 9 syndicats ont donc appelé à manifester cet après-midi pour protester contre cette baisse de leur pouvoir d'achat et la hausse de la CSG. 60% des retraités les plus aisés sont concernés par cette réforme. Au mois de mars, les manifestations avaient rassemblé 190 000 personnes selon les syndicats et 15 000 selon la police.
Hugo Chessinski, une semaine après le Sénat, l'Assemblée nationale vote définitivement ce matin la proposition de loi de La République En Marche sur la protection du secret des affaires. Il s'agit d'une transposition d'une directive européenne. La ministre de la Justice, Nicole Belloubet, assure que ce texte ne constitue pas un recul pour les libertés publiques. Et plus d'une centaine de rédactions, d'ONG, de journalistes qui avaient interpellé le chef de l'État pour qu'il modifie cette proposition considérée comme un outil de censure inédit. Désormais, la loi donnera en effet aux entreprises, selon ce texte, le pouvoir de poursuivre tous ceux qui révéleront des informations sensibles dans l'intérêt général. Puis, avant même toute publication, elle réinstaurera une forme de censure a priori du juge, abolie en 1881 par la loi sur la liberté de la presse. C'est ce que regrette donc ce collectif Stop Secret des Affaires dans une lettre publiée hier par Libération. Catherine Pétillon, bonjour.
Bonjour.
Alors rappelons peut-être en quoi consiste le danger tel qu'il est perçu par ses rédactions, ses journalistes et ses ONG.
Alors si l'on en croit la ministre de la Justice Nicole Belloubet, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. C'est en tout cas ce qu'elle a martelé en amont du vote ce matin. L'objectif affiché de la loi, c'est de permettre aux entreprises de mieux se prémunir contre le vol de secrets industriels ou leur divulgation à des concurrents. Seulement voilà, au nom du secret des affaires, ces entreprises pourraient en fait poursuivre quiconque rend public des informations. Ce qui potentiellement entre en contradiction avec de nombreux principes et d'autres législations, droit de la presse, de l'environnement, droit syndical, etc. Alors en pratique, est désormais protégée une information répondant à trois critères. Ne pas être facilement accessible à des personnes extérieures à l'entreprise, revêtir une valeur commerciale parce qu'elle est secrète et faire l'objet de mesures de protection dites raisonnables de la part de l'entreprise, une définition extrêmement large donc. Cela peut aller de la composition d'un médicament ou d'un aliment aux pratiques d'une entreprise en matière fiscale ou de sous-traitance. Obtenir ces informations serait donc faire infraction au secret des affaires. Le texte propose des exceptions, notamment pour les journalistes, insuffisantes, estiment les sociétés de journalistes d'une vingtaine de médias, dont Radio France, et une cinquantaine d'ONG, syndicats, associations. Ils déplorent aussi, je cite, que la loi érige le secret des affaires en principe et la liberté d'informer au rang d'exception. Est-ce dangereux? Vous dites non, ils disent oui, a souligné à l'Assemblée le député France Insoumise François Ruffin, interpellant Nicole Belloubet. Il y aura toujours des gens pour dénoncer des scandales. La question, c'est qui vous protégez? Vous avez choisi Goliath contre David, les laboratoires Servier contre Irène Frachon, UBS contre Stéphanie Gibault, a-t-il poursuivi avant de voter contre? Le texte a été adopté par 61 voix contre 21. Cela fait donc seulement 82 députés présents pour voter ce texte.
Catherine Pétillon, merci. La réforme ferroviaire au centre de la grève la plus longue des 30 dernières années à la SNCF, définitivement elle aussi adoptée ce matin par le Parlement. Le Sénat l'approuve en effet à l'occasion d'un vote ultime, 145 voix contre 82, moins de 24 heures après un vote très majoritaire aussi à l'Assemblée nationale. Les syndicats de cheminots étalaient hier leur divergence sur l'avenir du mouvement de grève contre la réforme. Certains menacent de briser l'unité qui règne depuis le début du conflit le 3 avril dernier. 12h47, on salue l'invité de la séquence interview, notre confrère Régis Janté. Bonjour.
Bonjour.
Vous publiez un livre qui s'appelle Football, le ballon rond de Staline à Poutine, bon, aux éditions Allery, édition. On va entendre tout de suite notre correspondant à Moscou, qui nous a fait parvenir donc sa correspondance, Claude Bruyot, pour nous parler de la manière dont Vladimir Poutine, évidemment, est aujourd'hui l'homme, le héros de la situation et qui tente de redorer son image avec cette grande compétition. Il va recevoir le prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman. Match d'ouverture donc ce soir entre la Russie et l'Arabie Saoudite. Et puis je note aussi que Monsieur Poutine a libéré apparemment le principal opposant au Kremlin, Alexis Navalny, qui annonce lui-même avoir été libéré après 30 jours de détention. Ça fait peut-être partie de ce nouveau décor que, en tout cas, Vladimir Poutine veut instaurer. La correspondance de Claude Bruyot.
Au-delà de la fête du football, à l'ombre du Kremlin, où il sera encore question des capacités russes à maîtriser le tout sécuritaire, condition d'ailleurs indispensable pour que Vladimir Poutine puisse entreprendre aujourd'hui le travail d'image parallèle qui constituera la clé d'une journée et d'une soirée réussie, eh bien la diplomatie pure a toute sa place également dans l'emploi du temps de Vladimir Poutine. Première tête couronnée à venir profiter de l'exposition mondiale de l'événement, le prince Mohamed Ben Salman offre l'occasion ici de tester la solidité d'une relation en forme de rapprochement circonstancié entre deux grands producteurs de pétrole, l'occasion de s'afficher en allié objectif avec un message à peine voilé à la seule grande puissance absente de la fête du football avec la Chine, en l'occurrence les USA, en imaginant que les champions de la production de pétrole de schiste, incarnés par Donald Trump, ne seraient de toutes les façons pas venu participer à cette parade sous les fenêtres du Kremlin.
Régis Janté, dans la tête de Vladimir Poutine, c'est un événement qui compte diplomatiquement. Comment est-ce qu'il perçoit, lui, vous sentez cet événement sportif?
Oui, c'est vraiment extrêmement important. Le sport est important. En 2002, donc quelques deux ans après être arrivé au pouvoir, il avait lancé une grande réforme du sport qui continue d'ailleurs avec l'ouverture d'une université du sport à Sochi, tout un projet pour financer les équipes, etc. Sachant que dans les années 90, 7000 sportifs probablement avaient quitté la Russie à cause des conditions. Et il avait appelé cette grande réforme, il s'est appelé ensuite Rossiya Sportivnaya Derzhava, la puissance sportive, Russie puissance sportive, ce qui montre bien qu'on est au cœur de son grand problème qui est de restaurer la puissance de la Russie.
Camille Magnard.
Alors bonjour Régis Janté.
Bonjour.
Dans votre livre donc Football, le ballon rond de Staline à Poutine, une arme politique, vous l'avez coécrit avec Nicolas Jallot, on le précise d'ailleurs. On voit bien qu'il y a une tradition soviétique puis russe avec Vladimir Poutine d'utilisation du potentiel populaire et politique, géopolitique même du football. Au départ, vous le dites dans le livre, c'était pas forcément un sport qui était bien vu par les autorités soviétiques.
Oui, effectivement, le sport était considéré, en tout cas dans sa version moderne, comme étant un sport bourgeois et donc absolument opposé aux valeurs du bolchevisme, qui d'emblée a intégré le sport dans son projet, mais qui a tenté de le bolcheviser, si j'ose dire. Et c'est ce qu'on a appelé la physkultur, la culture physique, qui consistait en gros à avoir un corps sain pour dresser un esprit sain idéologiquement, bien sûr. Ça fera long feu, puisque quelques années plus tard, il faudra faudra deux décennies à peu près, vers la fin des années 30, le sport soviétique va finalement obsédé par son désir de se mesurer à l'Occident, va s'occidentaliser et va pratiquer le sport tel qu'on le pratique en Occident. Ah. En football, par exemple, on adopte la méthode WM, qui est la méthode, le schéma de jeu bourgeois.
À partir de quand c'est récupéré comme ça par les bolcheviks, enfin par le régime?
Le sport bourgeois, c'est la fin des années 30. Ouais. En fait, notamment avec une tournée des Basques en 1937, très politique, puisque c'est pendant la guerre d'Espagne. Et à ce moment-là, les Basques ont une très bonne équipe, les Espagnols sont très forts. Et là, c'est un fiasco pour le football soviétique. C'est une humiliation. Et là, on décide d'adopter cette méthode de jeu WM, beaucoup plus dynamique, plus performante, pour pouvoir battre le Racing Club de Paris ou Arsenal de Londres.
Donc déjà, il est question de rivaliser avec l'Occident bourgeois en utilisant ses propres codes. Vous dites aussi dans le livre qu'à l'époque soviétique, le stade, le football, c'était l'endroit où on pouvait ne pas forcément être pour ce qu'imposait le régime, mais aussi être contre un espace un petit peu de liberté comme ça, même s'il y avait des grandes oppositions idéologiques avec notamment ce que représentait le Dynamo, le club du NKVD, et le Spartak qui était plus le club du peuple.
Absolument, c'est la phrase de Shostakovich que vous évoquez qui dit le stade de football notamment, c'est le seul endroit où vous pouvez non seulement être pour, mais aussi contre. En URSS, il n'y a pas d'autre endroit où c'est possible. Alors c'est un contre qui ne se disait pas, c'était tacite. Effectivement, le Spartak était l'équipe des Komsomol, des jeunesses communistes et des coopératives alimentaires. Et soutenir le Spartak, c'était une manière de ne pas soutenir le Dynamo, qui lui était l'équipe du NKVD. On est dans les années 30, notamment avec les purges staliniennes. Et donc, ne pas soutenir l'équipe du NKVD, le Dynamo, ça voulait vraiment dire quelque chose, quoi. C'était vrai aussi dans les républiques de l'Union. Je pense à ma chère Géorgie, si j'ose dire, où les 35 000 personnes qui allaient tous les samedis ou tous les 15 jours au stade venaient soutenir le Dynamo de Tbilissi, qui était plus Tbilissi que Dynamo pour eux, puisque c'était soutenir l'équipe porte-drapeau nationale dans un cadre où la nation était censée être reléguée au second rang.
Vous parlez de la Géorgie, impossible de ne pas évoquer le personnage de Lavrenti Beria, qui était à la tête du NKVD sous Staline, qui a dirigé les plus sanguinaires des purges staliniennes. Il avait aussi, lui, compris l'intérêt du football comme arme politique.
Il l'a compris d'emblée, avant de monter à Moscou en 1938 pour diriger tout l'appareil sécuritaire soviétique. Il est d'abord dans son Caucase natal, en Géorgie, et dès 1935, il fait construire un nouveau stade à Tbilissi. En 1937, il le fait baptiser, ce stade, Lavrenti Beria. Et vous avez 35 000 personnes qui, à chaque match, viennent soutenir dans le stade Beria l'équipe porte-drapeau. Et lui, s'est servi de la Géorgie certainement comme un fief, comme une base pour asseoir son pouvoir. Et lorsqu'il va monter à Moscou, il va aussi être le grand parrain, en quelque sorte, du club du Dynamo de Moscou et toujours de Tbilissi aussi, notamment dans ses rivalités avec d'autres concurrents politiques comme le patron des jeunesses communistes.
Aujourd'hui, avec cette Coupe du Monde qui démarre aujourd'hui, on voit que Vladimir Poutine veut en faire un point culminant de sa politique d'affirmation par rapport à l'Occident à travers le sport. Quel est son rapport avec les hooligans? On se souvient de l'Euro 2016 où les hooligans russes avaient semé la violence à Marseille notamment. On sent qu'il y a quelque chose là dans les relations entre le pouvoir et ces hooligans très nationalistes, très violents. Est-ce que eux peuvent venir troubler justement cette grande vitrine que veut Poutine à la face du monde?
Je n'ai pas toutes les informations sur 2016, mais on a l'impression que c'est quelque chose qui n'a pas été tout à fait contrôlé par le Kremlin, contrairement à ce qu'on a affirmé. Cette fois, je crois qu'ils sont totalement sous contrôle pour cette Coupe du Monde, et je sais de sources sûres que beaucoup d'entre eux ont choisi d'aller passer des vacances en Turquie ou en Asie, parce que ça fait des mois qu'ils reçoivent le FSB deux fois par semaine chez eux.
Poutine veut profiter de l'événement, bon, c'est de bonne guerre, si je puis dire. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que vraiment ça fonctionne? On dit que c'est pareil pour dire les compétitions comme ça internationales font gagner de l'argent ou pas gagner de l'argent. C'est pas toujours évident. Est-ce que vous pensez que malgré tout, ça va dépendre comment ça va se passer?
Moscou a une histoire compliquée, puisqu'on se souvient du boycott des Jeux Olympiques de 1980 à cause de l'invasion de l'Afghanistan. On se souvient des Jeux Olympiques de Sochi d'hiver de 2014 qui ont été, où la fête pour la Russie a été gâchée à cause de l'éclatement de la crise en Ukraine. Cette fois, on n'a pas l'impression que c'est quelque chose qui va arriver. Et je crois que ça marche plutôt bien pour lui, si j'ose dire. J'écoutais Noël Le Graët qui donnait une conférence de presse ce matin et qui a osé dire des choses de nature politique, alors que
c'est-à-dire
de sport, en disant que la Russie, il dit je veux pas parler de politique, mais finalement je dirais quand même que c'est un pays qui progresse. Bref, il a donné un message politique, et c'est tout ce qu'attend M. Poutine. C'est que il sait très bien qu'il y aura des critiques, mais globalement les reportages, etc., vont célébrer la grandeur de la Russie.
Et il y en aura des reportages, effectivement. Merci beaucoup Régis Janté d'avoir accepté notre invitation et de nous parler donc du rôle de ce sport dans la politique en Russie, le ballon rond de Staline à Poutine, c'est le sous-titre donc de ce livre qui s'intitule Football et c'est publié chez Alary Édition. Merci à vous Camille Magnard. La météo, un temps souvent nuageux sur la plupart du pays cet après-midi, température de 17 à 26 degrés, édition qui s'achève, réalisée avec Yacine Bouzard, et le prochain journal est à 18h avec Aurélie Kiffer.